Jean 17, verset 18. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Là, Jésus est en train de prier le Père et s'adressant à lui dans sa prière, il dira « Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. » Nous passons maintenant au chapitre 20. Au chapitre 20, le premier passage est avant la crucifixion de Jésus, juste avant. Le second passage est après sa résurrection. Jean chapitre 20, verset 19. Le soir de ce jour qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Quand il lui dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit « Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Amen. » Et vous avez vu qu'on retrouve à peu près le même verset, les mêmes paroles de Jésus au verset 21. « Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. » J'avais annoncé que nous commencerions une étude sur l'évangélisation. On va la commencer ce matin. Et bien sûr, le sujet est vaste. Et on va l'étaler sur plusieurs dimanches. On va parler de ce qu'est l'évangélisation, ses bases et ses fondements que nous allons voir aujourd'hui. Et puis, bien sûr, son contenu. Bon, il y a beaucoup de choses à dire sur l'évangélisation et ça va donc nous amener sur plusieurs dimanches. J'avais prévu un diaporama pour nous aider à suivre cette étude, mais j'ai oublié la clé USB sur mon bureau à la maison, donc il n'y aura pas le diaporama. Et donc j'ai choisi ce texte d'introduction, et je vais juste reciter cela. « Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Un texte qui est souvent cité lorsque l'on fait des études sur la mission. Évangélisation et mission sont étroitement liées, intimement liées, à la nuance près que peut-être la mission a un champ plus vaste que l'évangélisation, elle touche plus de domaines, mais il n'y a pas de mission sans évangélisation et vice-versa, donc c'est intimement lié, et c'est pour cela que j'ai choisi ce verset d'introduction. J'aurais pu en choisir d'autres pour débuter cette étude sur l'évangélisation, mais celui-ci m'a semblé bien à propos, et en relevant ce texte, on va relever trois points de base par rapport à ce texte. Mais tout d'abord, de quoi parle-t-on quand on parle d'évangélisation? C'est important. Et peut-être certains pourraient dire, mais est-ce que c'est nécessaire de parler dans l'évangélisation? Ne sommes-nous pas dans une église évangélique de Pentecôte, de surcroît? Et ça veut dire que nous sommes en général à la pointe de l'évangélisation, il est vrai. Mais comme pour les vaccins, de temps en temps, une petite piqûre de rappel, ça fait pas de mal. Et nous avons besoin de reparler de ces choses et de se motiver tout à nouveau et de redéfinir certaines choses. De quoi parle-t-on lorsqu'on parle d'évangélisation? Ça vient du mot évangile qui a donné évangéliser, évangéliste, enfin tous les évangiles que vous pouvez avoir, évangélisation, qui vient d'un mot grec qui a été francisé par le mot évangile, mais ce mot grec, littéralement, signifie « bonne nouvelle ». Évangile signifie « bonne nouvelle ». Nous avons une bonne nouvelle à dire. Et quand on parle d'évangéliser, on parle de quoi? tout simplement, littéralement, c'est annoncer une bonne nouvelle. Parfois, lorsqu'on dit évangéliser, on confond évangélisation et conversion. La conversion, c'est la réponse de celui ou de celle qui entend l'évangile, sa réponse de foi au message, il croit au message et il s'engage à suivre notre Seigneur Jésus-Christ. Mais donc, l'évangélisation, littéralement, c'est annoncer une bonne nouvelle. D'ailleurs, ce terme-là, on l'utilisait pour annoncer une bonne nouvelle d'une naissance, par exemple. C'est exactement le même terme. On l'utilisait pour annoncer la bonne nouvelle d'un mariage. Toutes les bonnes nouvelles, c'était ce mot qui a donné en français le mot évangile. On annonce une bonne nouvelle. Ceci étant dit, revenons à notre verset d'introduction. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. J'aimerais relever trois choses au travers de ce texte d'introduction. Tout d'abord, nous allons voir, et ça me semble important de commencer par là, en disant que l'évangélisation a pour origine le cœur de Dieu. Le Père m'a envoyé. Ça a pour origine le cœur de Dieu, et donc Dieu a une intention, Dieu a un but au travers de cela. Deuxième point, notre exemple, c'est Jésus. Et au travers de notre étude, pas que ce matin, mais au travers de notre étude, plusieurs fois, nous parlerons de l'exemple de Jésus. Jésus dira « comme le Père m'a envoyé ». Donc notre exemple, c'est bien notre Seigneur Jésus, qui est le missionnaire, j'allais dire, par excellence, l'évangéliste par excellence. Il est celui que le Père a envoyé, la parole qui s'est faite chair. Et puis, le troisième point, c'est pour faire relever qu'il y a une démarche d'être envoyé. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Il ne peut pas y avoir d'évangélisation sans cette notion-là, puisque, en fin de compte, l'évangélisation, c'est le fait d'annoncer une bonne nouvelle à quelqu'un d'autre. Donc, il nous faut pouvoir aller vers cette personne. Et Jésus le dira, hein, allez par toutes les nations. Donc, nous sommes envoyés vers les autres, nous sommes envoyés partout afin de pouvoir annoncer la bonne nouvelle. Et ça ne concerne pas seulement quelques personnes qui ont reçu un ministère particulier, ça nous concerne tous. C'est le mandat de l'Église, c'est la mission de l'Église, ça concerne tout un chacun qui est membre de l'Église, il est en potentiellement, j'allais dire, un évangéliste, un missionnaire, là où il se situe. Et en tout cas, lorsque nous lisons le livre des Actes des Apôtres, c'était l'attitude que les premiers chrétiens avaient, et nous voulons, eh bien, nous aussi, avoir ou retrouver cette attitude-là, afin que tout un chacun puisse connaître la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ, que Dieu soit béni. Premier point, donc, je disais que l'évangélisation a pour origine le cœur de Dieu, comme le Père m'a envoyé. Ça a pour origine le cœur de Dieu. Rappelez-vous, en décembre, nous avons fait cette étude sur le don de secourir et nous avons vu que là encore, le don de secourir a pour origine le cœur de Dieu. Dieu est le Dieu du secours, il est celui qui vient secourir. Il en est de même pour l'évangélisation. Dieu fait savoir, fait connaître, veut révéler, eh bien, la bonne nouvelle de son Fils Jésus-Christ par amour pour chacun d'entre nous. Pour quelle raison le Père a envoyé le Fils? On connaît par cœur Jean 3,16. Alléluia. Il a envoyé son Fils par amour. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il n'a pas envoyé son Fils pour qu'il juge le monde, mais qu'il soit sauvé par lui. Bien sûr, celui qui rejette le message de l'Évangile s'écarte de lui-même de la grâce que Dieu veut lui accorder. C'est donc par amour, c'est ça l'origine, j'allais dire, de l'évangélisation, de la mission, l'origine de l'envoi de Jésus, c'est l'amour de Dieu pour le monde entier, ce monde entier qui gît sous le péché, ce monde entier dont il est écrit encore dans la Bible, qui est sous la puissance du malin, mais Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. Que son nom soit glorifié. Alléluia. Merci Seigneur. Lorsque Paul cherchait sa direction, il voulait l'Ambitini, l'Esprit de Dieu ne lui a pas permis, il tournait un petit peu en rond jusqu'au moment où Dieu lui a envoyé cette vision du Macédonien, passe en Macédoine et secours-nous. Si l'apôtre Paul a été en Macédoine, ce n'est pas de sa propre initiative, cela vient de Dieu. L'origine encore, c'est le Seigneur, il est le commencement et la fin, le premier et le dernier. Alléluia. Donc on voit là le cœur de Dieu pour les nations, pour chaque âme, et c'est pour cela qu'il a envoyé son Fils. Juste lire dans Actes 7, verset 34, pour s'en convaincre un peu plus, il y aurait beaucoup de textes, mais j'aimerais encore lire ce texte dans Actes 7, verset 34. Ici, dans ce texte, Étienne rappelle un peu l'histoire d'Israël, et au verset 34, il dit « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu ses gémissements. Je suis descendu pour le délivrer. Maintenant, va, je t'enverrai en Égypte. » Étienne rapporte les paroles que l'Éternel avait adressées à Moïse. Ce n'est pas Moïse qui a l'initiative de la délivrance du peuple d'Israël, d'Égypte, de cet esclavage terrible. Mais c'est Dieu. C'est Dieu qui est à l'origine. Il dira, j'ai vu la souffrance de mon peuple. Et de la même manière, Dieu voit la souffrance des nations. Il voit la souffrance des hommes et des femmes. J'ai entendu ces gémissements. Bien des personnes pensent que Dieu est sourd à nos cris, qu'il est sourd à nos malheurs, qu'il est sourd à nos souffrances. C'est bien mal connaître le Seigneur. J'ai entendu ces gémissements. Lui-même dit, je suis descendu pour le délivrer. Dieu est descendu lui-même, délivrer son peuple, et il dira, maintenant, va, je t'enverrai. Si donc Moïse a été envoyé en Égypte, c'est parce que Dieu est à l'origine de cela, qu'il a vu la souffrance de son peuple, que Dieu a eu compassion de son peuple, et que Dieu a voulu secourir son peuple. Alléluia. Et quand nous entrons dans cette dimension, j'allais dire, de l'évangélisation, nous faisons qu'entrer dans le plan d'amour de Dieu pour le monde. Nous participons ainsi au plan d'amour de Dieu pour le monde, parce que l'évangélisation a pour origine, et j'insiste là-dessus, eh bien, le cœur de Dieu qui nous transmet sa miséricorde, qui nous transmet sa compassion pour le monde. Il ne peut pas y avoir d'évangélisation sans amour. Ou alors, c'est une évangélisation sèche, stérile, qui n'apporte rien, mais l'évangélisation commence par la transmission de la compassion qui est dans le cœur de Dieu jusqu'à notre cœur. Que Dieu soit béni, alléluia. Et si nous parlons de Jésus, c'est parce que nous aimons les âmes et que nous voulons leur transmettre le beau message du salut. Tout à l'heure, Jonathan, pour introduire la Sainte Cène, nous a lu un texte que j'avais prévu de lire. Alors, je vais quand même le relire dans 1 Jean chapitre 4, verset 8. 1 Jean chapitre 4, verset 8. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé. Donc on retrouve, c'est cette pensée-là, que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons nous aimer les uns les autres. Alléluia. Donc on retrouve cette même pensée. Cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce que Dieu nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Donc là, on voit encore que l'origine de l'amour, c'est Dieu. L'origine de l'envoi du Seigneur Jésus-Christ, c'est Dieu le Père lui-même. Et ce n'est pas parce que nous avons aimé Dieu que lui s'est révélé à nous. Non, c'est le contraire. Alors même que nous ne l'aimions pas, alors même que peut-être nous étions indifférent, ennemi de Dieu, peut-être même. On s'en prenait à Dieu, lui nous aimait déjà, il nous a aimés le premier, et il nous a envoyé son Fils mourir sur la croix pour chacun d'entre nous, afin d'expier nos péchés, afin de nous apporter le pardon de Dieu. Et c'est ainsi que nous sommes envoyés. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. C'est à cette mesure-là, j'allais dire, que nous sommes envoyés. Nous sommes envoyés vers des gens qui ne nous aiment pas de la même manière que Jésus a été envoyé vers des personnes qui ne l'aimaient pas. Il n'a pas été envoyé vers des gens qui l'aimaient bien, non. Mais vers des personnes qui ne l'aimaient pas. Et de la même manière, n'attendons pas que les gens nous aiment pour leur parler de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. On va attendre longtemps, je pense, hein. On va attendre longtemps. Mais nous sommes envoyés vers une génération, parce que nous sommes à notre époque, une génération qui connaît mal, ou qui connaît rien d'ailleurs, peut-être aussi, ou peu, l'Évangile. Et il nous leur faut dire ce qu'est l'Évangile. Nous sommes envoyés vers des gens qui peut-être même ne supportent pas l'Évangile, qui ne supportent pas ce beau message, qui n'aiment pas l'Église, mais qui pour autant ont besoin d'entendre l'Évangile. Et parmi nous, il faut reconnaître que nous étions aussi de leur nombre. Comme dit l'apôtre Paul, nous étions nous aussi des enfants de colère comme les autres. Et la grâce de Dieu est venue toucher notre cœur. Et il y avait parmi nous des gens qui s'en prenaient à Dieu, des gens voilà, durs de cœur, mais Dieu a su toucher leur cœur. Et c'est ainsi que nous sommes envoyés et pour nous rappeler eh bien, que celui qui est à l'origine de l'évangélisation, de la mission, c'est notre Père céleste qui nous rend capables, par le Saint-Esprit, d'aimer des personnes qui ne nous aiment pas, d'aimer des personnes qui, voire même, nous haïssent. Comment expliquer que dans certains pays où il y a la persécution contre les chrétiens, ces chrétiens persécutés pardonnent à leurs bourreaux, pardonnent à ceux qui les torturent, à cause de leur foi, et continue à leur apporter le beau message de l'Évangile. C'est un amour qui ne peut pas se fabriquer humainement. C'est Dieu qui nous le transmet dans nos cœurs par son Saint-Esprit. Alléluia. Et s'il y a bien un sujet de prière à avoir, c'est encore que nos cœurs soient perméables à l'amour de Dieu, que Dieu envoie, eh bien, par son Esprit Saint, eh bien, son amour dans nos cœurs, et bien sûr, parlant du Saint-Esprit, on en parlera au cours de ces messages. Je vais parler du deuxième point, l'exemple de Jésus. Comme le Père m'a envoyé, les questions de Jésus et notre exemple suprême, parfait, par excellence, en la matière, c'est bien notre Seigneur Jésus-Christ qui a été au contact de foules entières, qui a été au contact de personnes seules, comme la femme samaritaine, comme Nicodème, qui a été au contact de personnes malades, de personnes qui vivaient dans les pires ténèbres, comme le possédé de Gadara, des personnes qui étaient dans l'immoralité. On voit des prostituées s'approchaient de Jésus, ce qui lui a valu quelques critiques. Mais ces personnes-là avaient besoin d'entendre le beau message de la bonne nouvelle, du salut et du pardon de leurs péchés. Que Dieu soit béni. Il y aurait beaucoup de textes à prendre sur l'exemple de notre Seigneur Jésus. On en verra certains au cours de nos études. Mais j'aimerais juste, si nous avons encore un peu de temps, voir deux textes avec vous. Un que j'ai cité récemment lorsqu'on a parlé de délivrance, dans Luc chapitre 4. Luc chapitre 4, verset 16. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle. » Alors là, c'est annoncer une bonne nouvelle, c'est littéralement traduit, hein, c'est raconter l'évangile. En grec, c'est le mot qui a été donné en français, évangéliser, hein, aux pauvres. Annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Et tous lui rendaient témoignage. Ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche, et ils disaient, « N'est-ce pas le fils de Joseph ?» Jésus leur dit, « Sans doute vous m'appliquerez ce proverbe, « Médecin, guéris-toi toi-même, et vous me direz, « Fais ici, dans ta patrie, tout ce que nous avons appris que tu as fait à Capernaum. » Mais ajouta-t-il, « Je vous le dis, en vérité, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. Je vous le dis, en vérité, il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie, lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois, et qu'il y eut une grande famine sur toute la terre. Et cependant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles, si ce n'est vers une femme veuve, à Sarepta, dans le pays de Sidon. Il y avait aussi plusieurs lépreux en Israël du temps d'Élisée, le prophète, et cependant, aucun d'eux ne fut purifié, si ce n'est Naaman le Syrien. Ils furent remplis de colère dans la synagogue lorsqu'ils entendirent ces choses, et s'étant levés, ils le chassèrent de la ville et le menèrent jusqu'au sommet de la montagne sur laquelle leur ville était bâtie, afin de le précipiter en bas. Mais Jésus, passant au milieu d'eux, s'en alla. Amen. Ce texte est riche et j'aimerais juste relever quelques points rapidement. Tout d'abord, nous voyons que l'Esprit de Dieu est sur Jésus. L'Esprit de Dieu est sur Jésus. Juste avant, on n'a pas lu le texte avant, mais juste avant, on voit que Jésus, rempli du Saint-Esprit, a passé 40 jours dans le désert où il a été tenté par le diable. Et l'Esprit de Dieu est sur lui. De la même manière, Jésus avait dit à ses premiers disciples d'attendre à Jérusalem. Déjà, dans le premier texte que nous avons lu tout à l'heure, il a soufflé sur eux en disant « Recevez le Saint-Esprit » quand il leur dit « Moi aussi je vous envoie ». Mais ils ont besoin aussi de plus que ça d'être remplis du Saint-Esprit. Aussi leur dira-t-il dans l'Acte des Apôtres au chapitre 1er, « Vous recevrez une puissance survenant sur vous, le Saint-Esprit, il parle du Saint-Esprit, et vous serez mes témoins de Jérusalem jusqu'aux extrémités de la terre. » Alléluia. Aussi, nous faut-il vraiment chercher les uns et les autres la face du Seigneur afin qu'il nous remplisse du Saint-Esprit. C'est une grâce et une promesse de sa part, que son nom soit béni. Je ne vais pas redire tout ce que j'ai dit lorsque nous avons parlé de la délivrance, mais nous voyons vraiment ici ce que le Seigneur a fait. Il a annoncé une bonne nouvelle aux pauvres, et les pauvres, ils ont toujours des mauvaises nouvelles. Hein. Ils ont toujours des mauvaises nouvelles. Les factures qui tombent, peut-être les maladies parce qu'ils n'ont pas d'argent pour se soigner, etc., etc. Les pauvres, ils n'ont que des mauvaises nouvelles. Mais Jésus a une bonne nouvelle à leur adresser. Alléluia. Jésus a une bonne nouvelle à leur adresser. C'est extraordinaire le message de l'Évangile parce qu'en fin de compte, il touche tout notre être, corps, âme et esprit. Ça ne touche pas simplement notre âme, bien sûr, mais ça nous touche entièrement. Le message de l'Évangile, il est pour tout notre être. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. Alléluia. Merci Seigneur. Alors, Jésus parle au verset 22 et 23 et même 24 que nul prophète n'est bien reçu dans sa patrie. On voit là une première difficulté, c'est que Jésus a été envoyé pour tous, mais là où il y a eu le plus de difficultés, c'est chez les siens. Et de la même manière, aujourd'hui aussi, si nous suivons l'exemple de Jésus, là où nous avons le plus de difficultés, d'une manière générale, peut-être pas d'une manière particulière pour certains, mais d'une manière générale, là où nous avons le plus de difficultés, c'est bien vers les nôtres. Alors là, Jésus va un peu les piquer au vif, en rappelant que déjà dans l'Ancien Testament, Élie le prophète a été lui aussi envoyé, dans un temps de famine, vers une veuve, alors qu'il y en avait plusieurs en Israël, mais il n'a pas été envoyé vers une veuve d'Israël. Il a été envoyé vers cette veuve à Sarepta. Ah, ça a fait grincer ceux qui écoutaient Jésus là. Et là, on voit déjà l'amorce de Jésus que le message dépasse et de loin la seule nation juive. Le message, il est pour toutes les nations, aller par toutes les nations. Et puis, il prendra un autre exemple avec Naaman, le Syrien. Un Syrien, en plus, ils étaient en guerre à ce moment-là avec les Syriens. Donc ça les pique encore plus au vif. Donc on comprend pourquoi ils sont remplis de colère dans la synagogue qu'ils ont essayé de faire mourir le Seigneur Jésus. Donc il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Le Seigneur Jésus est notre exemple. Et les difficultés qu'il a rencontrées, nous les rencontrons aussi. Ne pensons pas un seul instant que nous n'aurons pas de difficultés, bien sûr. Jésus nous a prévenu que nous aurons des tribulations dans le monde, mais prenons courage, car il a vaincu le monde. J'aimerais prendre un autre texte dans Marc, chapitre 10. Marc, chapitre 10, verset 46. Marc 10, verset 46. C'est la guérison de l'aveugle Bartimée. Ils arrivèrent à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant, aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le !» Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle !» L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus prenant la parole, lui dit, « Que veux-tu que je te fasse ?»« Rabouni !» lui répondit l'aveugle, « Que je recouvre la vue !» Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé !» Et aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Amen. Alléluia. C'est un passage que j'aime beaucoup. Cette guérison de Bartimée, c'est ainsi qu'on l'appelait, qui était à Jéricho. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur Jéricho. Hein. Rien que cela, Jésus qui va à Jéricho, c'est extraordinaire. Hein. Il va dans des villes difficiles, dans des villes rebelles. Il va là, à Jéricho. Mais ce que j'aimerais faire ressortir dans ce passage, c'est que il y a cet aveugle qui après Jésus, parce qu'il a entendu, bien sûr, déjà parler de Jésus, la renommée de Jésus a parcouru les villes. Et donc lui aussi a entendu parler, et s'il est aveugle, il n'est pas sourd. Et donc il a entendu parler de Jésus plus ou moins, et sa foi a grandi dans son cœur. Il a un espoir, parce que celui dont il a entendu qui guérit les aveugles, qui guérit les malades, passe dans sa ville. Ça donne de l'espoir à Bartimée, ça lui donne la foi, et il se met à crier après Jésus. Bon, j'espère qu'on ne sera pas de ceux qui vont faire taire ceux qui crient après Jésus. Il y en a qui ont essayé de faire taire Bartimée. Ça, c'est pas de l'évangélisation. On l'a tout de suite compris. Hein. Et ce que j'aime beaucoup chez Bartimée, c'est que plus on essayait de le faire taire, plus il criait fort. Et il criait encore plus fort. Hein, au verset 48, « Jésus, fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrête. C'est important. Même si on est occupé, Jésus était occupé. Hein. Et il y avait la foule qui était là. Mais Jésus prend le temps de s'arrêter pour une seule personne. Ça, c'est extraordinaire. Je pense que c'est important pour chacun d'entre nous, il est vrai, de ne pas rater les opportunités qui se placent sur notre chemin et de prendre le temps de s'arrêter comme Jésus, lui aussi, s'est arrêté et il a dit « appelez-le ». Et ça, « appelez-le », ça fait partie de notre mandat, de notre mission d'appeler les personnes, d'appeler les personnes. Nous ne pouvons convertir personne, c'est pas nous, hein. C'est le Saint-Esprit qui le fait. Mais nous annonçons la personne du Jésus et nous appelons les personnes à se connecter à Jésus. Et ça, ça fait partie, j'allais dire, de notre mission de mettre les personnes en connexion avec Jésus. On ne peut pas faire plus, parce qu'après, c'est leur démarche intérieure. Mais c'est ce que nous voulons faire. Appelez-le. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » Alléluia. Et cet homme n'a pas attendu. De suite, il a jeté son manteau, il s'est levé d'un bond, et il est venu vers Jésus. Gloire à Dieu. Alléluia. Il est venu vers Jésus. Et Jésus va guérir. Et je disais tout à l'heure que l'Évangile, ça touche notre âme, bien sûr, mais ça touche aussi notre corps, parce que cet homme a un problème physique. Et la bonne nouvelle, et ça fait partie de la bonne nouvelle, c'est que Jésus guérit les malades. Faut pas oublier de le dire, ça, que Jésus guérit les malades. C'est une réalité. Hier, pas plus tard qu'hier, je suis toujours en connexion avec quelques frères de Tunisie, et un pasteur tunisien m'a envoyé une photo, pas plus tard qu'hier, d'un homme pour qui ils ont prié, qui était aveugle, qui a retrouvé la vue. Alléluia. Encore au Jésus guérit les malades aujourd'hui. C'est une réalité. C'est une réalité. Et nous ne voulons pas occulter eh bien, ce point-là de l'Évangile. Jésus guérit les malades. Il chasse les démons. Alléluia. Que son nom soit glorifié. Jésus est celui qui fait des choses extraordinaires. Nous avons un Dieu qui fait des miracles, ça fait partie de la bonne nouvelle. Et si Jésus fait des miracles, c'est toujours parce qu'il est ému de compassion. D'ailleurs, pour la même guérison, dans Matthieu, il est dit que « ému de compassion ». Il y a ce rajout dans Matthieu, « ému de compassion ». Si Jésus a guéri Bartimée, c'est qu'il a été ému de compassion. Et il est dit ceci, c'est que, verset 53, donc il a été guéri. Et il a suivi Jésus dans le chemin. Ah, ça, j'aime beaucoup. Hein. C'est ce que nous désirons et nous prions pour ça. Ce n'est pas simplement que Jésus fasse du bien à quelqu'un. C'est bien, alléluia. Merci Seigneur. Mais nous, ce que nous désirons, c'est qu'il suive Jésus. Et c'est ce qu'a fait ce Bartimée. Une fois guéri, il a suivi Jésus dans le chemin. Gloire à Dieu. Amen. Et nous prions pour cela. Si nous apportons la bonne nouvelle, c'est que nous désirons que les personnes, à leur tour, suivent Jésus. Et leur vie va totalement être transformée, totalement changée. Merci Seigneur, nous avons aujourd'hui un exemple vivant de quelqu'un qui a décidé de suivre Jésus dans le chemin. Avant, il ne pouvait pas, il était aveugle, mais il a retrouvé la vue. Et merci Seigneur, parce que tu as touché les yeux de nos cœurs. Nous étions dans cette ignorance, mais maintenant Seigneur, tu as ouvert nos yeux et nous pouvons te suivre là où tu veux nous amener, que son nom soit glorifié. Amen. Je n'ai pas le temps ce matin de voir notre troisième point, on le réservera pour dimanche prochain, mais notre troisième point c'est que nous aussi nous sommes envoyés. Pour l'instant, les disciples dans notre texte d'introduction dans Jean chapitre 20, ils étaient cloîtrés dans leur peur, hein. Ils avaient peur. Ils avaient peur. Et ils avaient besoin d'être délivrés de cette peur pour pouvoir sortir à leur tour et commencer la mission que le Seigneur leur avait confiée. Mais je ne vais pas aller plus loin et je le réserve pour dimanche prochain. Que Dieu nous aide, les uns et les autres. Amen.